The French Connection.
Bonjour et bienvenue à l'épisode 230 de la French Connection. Cette semaine, on a un spécial avec David Carrie-Étu de B-Side Montréal. Salut David.
Salut.
Et je suis avec Steve.
Bonjour, bonsoir.
Salut messieurs. Donc aujourd'hui, on parlait de B-Side qui fait partie du circuit des conférences de cybersécurité du Québec. Mais avant ça, simplement un petit background, en fait. David, t'as déjà présenté au Hackfest et autres. Je sais qu'il y en a certains qui te connaissent, mais tu peux faire un petit sommaire de ton background en tout ce qui est cybersécurité et autres.
Oui, mais j'ai un background un peu spécial, vu que je suis professeur en criminologie à l'Université de Montréal. Et quand on regarde un peu le milieu académique, on sait que ça vient surtout de computer science, computer engineering. Mais de plus en plus à Montréal, on regarde en fait le côté criminaux. Puis en gros, c'est de s'intéresser aux humains, mais aussi aux réseaux délinquants. Et c'est un peu ma spécialité, donc, de comprendre en fait qui va faire de la cybercriminalité. Comment est-ce qu'ils veulent faire? Et j'ai toujours eu une grande passion pour ces individus-là, simplement parce que c'est probablement les personnes qui sont les plus innovantes au monde. Quand on regarde le hacking au cours des 40 dernières années, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des gens qui trouvent des façons de rentrer dans des systèmes, de jouer avec les systèmes puis les personnes. Et moi, je suis comme un enfant là, dans un magasin de bonbons à chaque fois. Je découvre en fait quelque chose à chaque semaine. C'est ça qui me passionne énormément. Donc, j'ai beaucoup travaillé tout ce qui est dark web et autres avec mon laboratoire, là, le Darknet and Anonymity Research Center. Donc, le DARP, pour les futés qui ont compris l'acronyme. Mm-hmm. Et ça prend toujours ça là, pour se faire financer.
Très cool. Puis, en termes de prof dans ce domaine-là, ça ressemble à quoi les débouchés possibles? Parce que, comme tu dis, tout le monde est habitué au cours de IT, TI, développement, réseau, puis là, on commence à avoir de la cybersécurité, mais en cybercrime, c'est quoi qui en ressort?
C'est déjà en fait du côté de la police, on se rend compte qu'ils se sont finalement réveillés au fait que la cybercriminalité existe. Maintenant, on a des unités en fait de cyber à la GRC, à la SQ, dans les grands corps de police. Donc, ça commence à faire quand même beaucoup de débouchés dans ce domaine-là. Mais on le voit énormément aussi avec toute la recherche qui est faite sur le crime, puis justement que ce soit au Hackfest, que ce soit à B-Side, dans une grande conférence, on se rend compte que d'avoir un talk où on va déconstruire un botnet, où on va analyser les différentes phases d'infection, je pense que c'est important parce que on essaie de comprendre si on a été infecté ou non, mais quelque part, ça devient peut-être un peu redondant. C'est le fun de s'intéresser à quelque chose d'autre, puis surtout en fait aux individus, parce que si on s'intéresse pas aux individus qui font ces activités-là, ben on va juste répéter la même roue, puis on sait tous, une fois qu'un botnet est fermé, on lui donne quoi quelques semaines de vacances aux délinquants qui s'en vont à la plage quelque part, puis un mois plus tard, on se rend compte qu'il y a un botnet de 15 000 machines qui est de retour avec probablement les mêmes personnes derrière.
Ouais, puis avec toutes les ce qu'on a vu dans les dernières années, ils se rebrandent, ils changent de nom, c'est tout le temps la même gang, mais avec un nouveau nom, justement, ils se sont fait shutdown, puis après ça, ben, on va recommencer.
On parle beaucoup de marketing dans le monde de la cybersécurité, mais dans le monde délinquant, le marketing est aussi important, surtout avec tous les programmes d'affiliés qu'on voit. Quelque part, faut aussi vendre sa salade un peu pour être capable de réussir.
Ouais, puis on s'entend, ils sont rendus avec le ransomware as a service, fait que il y a le DDoS as a service qui existe tout aujourd'hui, fait que t'as raison, faut que ce soit marketing autant de leur côté que les compagnies de sécurité. Ouais.
Exact.
Cool. On parlait de B-Side Montréal, comment t'es tombé là-dessus, puis parle-nous un peu de ça, comment ça a débuté, puis où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Oui, ben les B-Sides, en fait, c'est quand même un branding qui est très fort, je pense, dans le monde de la cybersécurité. Je pense qu'ils sont rendus quelque chose comme 240 B-Sides à travers le monde en activité. Puis j'ai l'impression quelque part que Montréal, c'était comme la dernière grande ville au monde qui avait pas son B-Sides. Pas qu'on manque de conférences en cybersécurité à Montréal, avec le Hackfest, avec GoSec, avec NordSec, je pense qu'on a quand même des très grosses conférences qui étaient établies ici. Mais justement, ce que je trouvais qui manquait, c'était peut-être l'aspect, disons, un peu plus artisanal ou disons quelque chose qui serait de moins haut niveau. Je pense que les événements dont j'ai parlé il y a quelques instants ont une réputation internationale maintenant, sont vraiment établis. Puis c'est peut-être pas tout le monde qui oserait aller présenter devant la foule du Hackfest. C'est diffusé en ligne, donc c'est sûr que ça laisse des traces en plus. Et le but, c'était d'offrir une espèce d'alternative qui serait quand même plus abordable, plus ouverte à tous, puis où on pourrait peut-être même se casser la gueule sans avoir trop peur, et de faire ça dans un environnement donc qui est vraiment axé autour de la discussion des communautés. Et ça rentre un peu dans le mentos en fait de B-Sides. Puis les B-Sides, ça peut prendre différentes formes. Ça va, je pense, de 40 à 3 000 personnes. Mais il y a une règle qui est immuable, en fait, c'est le fait que on peut pas payer pour parler. Donc, toutes les personnes qui vont présenter dans un B-Sides sont là pour le mérite et non parce que, leur compagnie a beaucoup d'argent. Donc, on a lancé, on est quand même plusieurs personnes impliquées dans le projet parce que n'importe qui a déjà organisé une conférence le sait, c'est pas quelque chose qui s'organise tout seul dans son sous-sol. Donc on est plusieurs à travailler là-dessus. On a parti en fait B-Sides Montréal il y a 3 ans, et donc là on va célébrer notre 3e anniversaire cette année, cet automne, avec donc l'édition le 16 septembre prochain à Bibliothèque et Archives nationales. Pour ceux qui connaissent pas, donc un très beau lieu de conférence. On ne pourrait pas être plus au centre de Montréal que ça, finalement.
Très cool. Puis vous avez été chanceux, vous avez commencé ça la meilleure année en 2020, c'est ça?
Ouais, ben en fait, en 2021, donc je dois dire que de
OK,
semaine en
parfait.
semaine, c'était quand même, est-ce qu'on peut avoir des gens, est-ce qu'on peut avoir des gens avec des masques? Et on a eu un engouement vraiment au-delà de ce qu'on attendait déjà la première année. Je pense que les gens avaient hâte de se revoir en personne.
Ouais.
Et en septembre, si les gens se rappellent, c'était comme à la fin de l'été, on avait ouvert. Et déjà, disons qu'on était pas mal serré dans notre salle. Heureusement, il n'y a pas eu d'inspecteur qui est venu pour poser trop de questions. Mais oui, c'était quand même un très gros défi, en fait, de se dire qu'on va organiser un événement en pleine pandémie, surtout convaincre des commanditaires qui, en fait, avaient abandonné un peu justement l'idée de commander des choses en personne. Donc, ça a été quand même beaucoup de défis. Et peut-être aussi, puis je pense que les gens le réalisent peut-être pas, mais un des plus gros défis, en fait, c'est de trouver des bons présentateurs, surtout quand on est une jeune conférence. Tout le monde va envoyer sa conférence incroyable, sur laquelle il travaille depuis 2 ans à DEFCON. Mais quand arrive une plus petite conférence comme nous, trouver des gens qui veulent venir partager leur expérience, c'est pas nécessairement facile, mais je pense qu'on a vraiment été capable de rejoindre un large public depuis les 2 dernières années, puis je pense qu'on est capable de le faire encore cette année-là.
Non, très cool ça. Puis évidemment, j'adore le concept B-Side aussi. J'ai participé à lui de Vegas, qui est le reach extrême que tu as dit, le 3 000 personnes. C'est pas la même chose, mais tu as toujours l'ambiance vraiment relax et différent justement des autres plus, pas dire corporate, parce qu'on n'est pas corporate nous autres non plus, là, mais structuré, si on peut dire.
Puis même, un des concepts de B-Sides que j'ai jamais osé mettre en pratique, mais que j'aimerais bien essayer un jour, c'est le fait où on fait même pas de programme. Les gens arrivent le matin, puis on demande aux gens de quoi voulez-vous parler? Ah, je veux parler d'Active Directory. Puis on dit, bon, qui a de l'expérience avec ça? Quelqu'un lève la main et dit, ah ouais, moi j'ai vu un exploit dans ma job la semaine passée, puis on en jase. C'est un niveau de
That's
désorganisation que j'ai pas encore osé, mais
it.
j'espère en fait qu'on pourra se permettre dans les années à venir.
J'ai eu cette idée-là il y a plusieurs années, puis j'ai jamais osé non plus, mais pas avec l'ACFES, avec les rencontres mensuelles, qui rejoint un 30 à 80 personnes, là, dépendant des mois. C'est pas facile parce que si on revient au concept que tu as dit au début, c'est pas tout le monde qui veut présenter dans les grands événements parce que oui, tu as du en ligne, puis tu as beaucoup de monde dans la salle, puis il y a comme un, je ne veux pas dire le mot renommé, mais le monde a ça dans la tête pareil, là. Puis on essaie de forcer beaucoup les débutants, puis ceux qui n'ont jamais donné de conférence à en donner. Puis tout le monde a quelque chose à dire. Peu importe c'est quoi ton niveau, peu importe quoi ton expérience, tu sais quelque chose que l'autre à côté ne sait pas. Mais ça reste que c'est difficile à faire. Puis il y a une fois, je pense que c'est 2017, 2018, peu importe, je suis allé dans le Austin, au Texas, pour la job. Puis ça tombait que c'était la semaine qu'il y avait, c'est pas un B-side, je sais pas comment ils l'appellent, mais c'est un petit rencontre mensuelle. Puis leur concept était vraiment cool. Si tu vas là régulièrement, t'es obligé de présenter. Si tu présentes pas, ils te refusent à la porte.
Ouais.
Fait qu'eux avaient une salle de peut-être 50 personnes qui, à tous les mois, si ça fait plus qu'une fois que tu y vas, le deuxième ou troisième mois, t'es obligé de présenter, que ce soit 30 secondes ou une heure. Ouais. Fait sur place, il y avait une file de personnes en avant qui avaient leur sujet puis qui attendaient leur tour. Ouais. T'en as eu un qui c'était comment faire une attaque, je pense, bien standard, là, web. L'autre d'après qui montrait un projet qu'il avait codé. Et après ça, t'as eu, ces deux-là, ça a duré genre 20 minutes. Après ça, t'as eu un gars qui a fait une heure et demie sur les bases nucléaires, tu sais, parce que le gars travaillait là. C'était vraiment random, mais vraiment cool. Fait que si t'oses aller vers là, très bonne idée. Pour vrai, ça donne des résultats vraiment cool. Faut juste avoir le petit kick que le monde embarque. Mais ouais.
Ben justement, du moins, ça va stimuler des gens là, qui n'ont pas l'habitude ou l'anticipent jamais de les oser le faire parce qu'ils se disent « Ah, j'ai pas la structure, j'ai pas la technique, whatever. » Mais où je m'en allais aussi avec ça, David, c'est tu vois-tu, ils voient-tu à ce moment-là, puis ils s'aident comme un conduit commercial ou semi-commercial, ou bien tu gardes ça justement le plus neutre possible pour donner l'occasion à tout le monde de participer?
Ben, en fait, tu peux avoir parlé justement avec les fondateurs de B-Side. On peut pas s'en tirer aujourd'hui là, sans avoir un aspect minimum commercial. Donc, ça prend des vendeurs, ça prend des commanditaires, juste parce que, ben, après ça, faut quand même manger. Puis bon, on aime bien boire aussi, donc ça... Mais... Le but, en fait, c'est d'offrir un espace à ces gens-là pour parler, mais de garder ça, en fait, la liberté de chacun de voir est-ce que je veux discuter avec les sponsors ou non, puis pas de leur donner toute la place, puis de se dire que la qualité, en fait, des présentations va diminuer. Donc, je pense que tous les B-sides vont avoir des commanditaires, mais quand je regarde chez nous, par exemple, je pense qu'un billet, maintenant, on est rendu à 40 ou 45 $, puis ça venait avec ton déjeuner, ton dîner, ton souper, okay, de l'alcool, un t-shirt. Là, on essaie de redonner le maximum, puis évidemment, un peu comme beaucoup des conférences, on est tous des bénévoles là-dedans. Puis le but, en fait, c'est de se donner, en fait, un événement plus où on peut se voir, on peut jaser, puis on peut apprendre les uns des autres, là.
Oui, tout à fait. Puis justement, ben, tu sais, le sens de ma question était vraiment, tu sais, faut pas. Ce qui est dommage, moi je l'entendais souvent là, lorsque je me promène un peu partout, que ça devienne une vitrine, que tout le monde vient présenter ses gogosses, excuse de décrire ça comme ça, là, mais souvent, là, t'en as des événements que ce n'est qu'un marché aux puces de solutions technologiques qui ne cadrent vraiment pas avec l'idée principale de la conférence. Fait que des fois, je trouve ça dommage que les sites sponsors des compagnies vont tout simplement s'inscrire pour avoir un pied à terre puis dire « Hey, j'ai présenté à telle conférence » puis que ça n'avait aucun rapport avec le sujet du jour. Là. Fait que tant mieux si t'es capable de mixer les deux. Là.
Puis on a eu aussi beaucoup de discussions à l'interne, puis c'est toujours l'espèce de trade-off là, qui est de dire pour appliquer à B-Side, tu peux être un speaker, puis vous avez jusqu'au 2 août justement pour appliquer. Tout ce que ça prend, c'est un résumé de 300 mots, puis une biographie, et une photo ou un gif de votre choix, là, selon si vous voulez montrer votre face ou non. Et d'un côté, en fait, c'est fait pour être le plus ouvert, puis de se dire que tu n'as pas besoin de passer des mois à préparer ta soumission. Mais en même temps, c'est sûr que bon, ben ça peut permettre des fois de passer, disons, certaines présentations qu'on n'aurait peut-être pas souhaitées si on avait vu le contenu. Mais jusqu'à maintenant, on a vraiment été choyés, puis on a vraiment été gâtés, j'aimerais dire, par l'honnêteté puis la qualité des présentations qu'on a eues. Je pense qu'on n'a pas à rougir devant qui que ce soit, là.
Non, tout à fait. C'est beau programme. Puis, en tout cas, j'ai combien de cette année d'y participer.
Awesome. Si on passe au prochain petit sujet, c'était-tu ta première fois que tu organisais une conférence?
Non, mais j'en ai fait plusieurs, plus dans le monde, disons, académique. Puis en fait, ma première job, c'était d'organiser des shows punk à Montréal. Donc, j'ai fait ça pendant
Nice.
presque 10 ans. Et donc, tu vois, gérer des hackers, ça
Ou
va,
des
mais
parcs.
comparé aux émeutes qu'on a pu avoir dans le passé, disons que je suis rendu plus vieux, mais quand même, je pense que j'ai travaillé en centre jeunesse aussi, c'est que j'ai appris quelques techniques là, de contrôle
Bon truc,
de
oui.
foule qui sont utiles encore aujourd'hui.
Très cool. Fait comment ça se passe à gérer un B-side? C'est quoi vos plus grands challenges? C'est ça, tu disais trouver des conférences, mais pour le reste, ça
Je
m'a quoi?
trouve que justement, ça, trouver des bonnes présentations, c'est peut-être là aussi où justement, un peu comme Steve disait, je pense que tout le monde a quelque chose à dire. Et je pense qu'il faut encourager les gens justement à venir parler parce que c'est probablement la meilleure façon de devenir un expert dans un sujet. Si tu viens parler quelque chose devant les gens, c'est là où tu vas lire, tu vas essayer d'apprendre, tu vas te questionner. Et c'est aussi en fait la meilleure façon de se faire des liens. Quand on a présenté devant une salle, tout le monde vient nous parler après, versus si on assiste à une conférence, ben on reste un peu anonyme dans le fond de la salle, puis on n'a pas autant de liens en fait avec les autres. Et je pense que l'autre défi après, c'est d'arriver avec un événement qui va être diversifié, mais qui va quand même avoir une bonne ligne finalement. Donc, essayer de trouver des présentations qui vont aller avoir un niveau qui va rechercher un peu tout le monde. Donc, on a des gens dans la salle qui vont être des avocats, il y a des gens qui vont être en cybersécurité pure, on a des gens de la police aussi. Essayer de rejoindre tous ces gens-là, puis de trouver un fil conducteur à travers tout ça, c'est quand même aussi un bon défi. Et on a tous entendu parler du fait qu'apparemment l'économie va un peu moins bien.
Mais
Donc justement, t'sais, le but d'un B-side, c'est d'être extrêmement accessible. Je parlais un peu de tout ce qu'on veut offrir aux gens pour rendre la journée agréable. Puis le but, c'est de déconnecter puis de se dire vraiment, j'ai pas à me poser de questions, je m'assois là, je peux jaser avec les gens, j'ai pas à me demander où est-ce que je veux dîner ce midi. On vous habille même, c'est que même si vous n'avez pas rien à vous mettre, vous pouvez mettre le t-shirt de la conférence quand vous êtes là. Mais c'est un gros défi aussi de justement donc trouver le financement dans un contexte aussi où justement on a le FIC qui est débarqué à Montréal, qui vient aussi, si on veut, donc prendre des parts de commandite et qui viennent jouer justement dans l'écosystème québécois, là.
Ben, là, justement là-dessus, David, ta perception sur la présence du FIC, est-ce que, à tes mots que tu viens de mentionner, l'interprètes-tu justement comme un compétiteur, en tout cas, qui s'engage, lui-là, à venir vraiment, littéralement, prendre la place de tout le monde, puis empêcher l'évolution de qu'est-ce que tout le monde crée, pour que ça fonctionne ici, de la façon qu'on veut?
Ben, apparemment, nul n'est prophète dans son pays. Et en fait, je pense que la plus grosse discussion qu'on a à avoir, c'est plus qu'est-ce qu'on veut avoir comme événement, quels sont nos besoins. On a vu que le FIC a quand même reçu des subventions du gouvernement québécois pour s'implanter et se développer ici.
Et français aussi.
Et français. On voit que Collégien à Toronto, c'est un peu la même chose aussi, où on se rend compte que c'est des gens qui viennent chercher énormément d'argent. Puis la question, c'est de se demander, est-ce qu'on valorise vraiment les bonnes choses en faisant ça? Je pense que d'avoir un marché comme le FIC, plus un peu un marché aux puces, là, justement, où on peut trouver tous les fournisseurs de services. C'est quelque chose qui peut être vraiment utile. Je pense que là où ça affecte plus l'écosystème, c'est où les gens qui vont commanditer vont dire, bon, ben, est-ce que je mets 10 000 dans 5 événements ou est-ce que je mets 50 000 au FIC? Et c'est ces questions-là, en fait, qui vont se placer dans les prochaines années. Et je trouvais ça vraiment dommage si finalement on concentre les ressources dans un événement au détriment de plus petits événements qui ont lieu tout au cours de l'année. C'est pour ça, en fait, qu'on a essayé de développer justement un circuit des événements en cybersécurité au Québec pour amener les gens à vivre la cybersécurité toute l'année, puis pas une fois par année se demander, bon, ben, peut-être j'ai besoin de nouveau antivirus, je vais aller voir qu'est-ce qui se vend, puis acheter ça sans plus y penser pour le reste de l'année.
Mais est-ce qu'ils t'ont approché le FIC pour faire un genre de collaboration et de dire ben voici, on va le faire, mais on n'empiétera pas sur votre territoire, puis
Non.
sens-tu présentement une coopération de deux parts?
Non, mais il n'y a pas tellement de discussion. Et
OK.
aussi, on opère quand même à un niveau très différent là, en termes de moyens, d'échelle, de public qui est recherché aussi. Je pense que là, on ressent beaucoup plus donc le poids, c'est quand vient le temps de parler à des commanditaires qui vont peut-être nous dire, bon, ben, notre budget est déjà dépensé pour l'année, on va se payer un FIC au lieu de, par exemple, commanditer Hackfest puis le B-Sides en se disant, on va encourager
Mais
d'autres événements.
c'est correct, ils vont se rendre compte qu'ils gaspillent de l'argent dans le beurre, que l'année d'après, ils reviendront.
C'est ça.
Mais tu dis que tu n'as pas été contacté, j'en dirai pas trop, mais ils contactent tout le monde dans les organisations. Leur objectif principal est clairement de ramasser l'argent de tout le monde et de déplacer ce qui existe aujourd'hui. Très malicieux, je trouve, comme approche. Mais ce qui est dommage, un peu comme tu disais, à cause que le gouvernement du Québec a mis de l'argent là, quand l'orientation du Québec est de garder et d'investir au Québec, ça s'en va dans deux directions totalement opposées. C'est sûr que là, ça, c'est de la politique, là, mais ça reste que la vision suit pas le portefeuille ou l'inverse, là.
Puis,
Ouais.
pourtant, on a un écosystème hyper riche ici,
Ouais.
mais ça semble être une tendance, comme je disais, à Collision à Toronto, où ils parlent de 40 millions pour faire l'événement-là, sinon ils s'en vont à Vancouver. C'est aussi cette compétition-là, même entre des villes canadiennes, que je m'explique, que je comprends, mais que je pardonne peu.
Non, non, tout à fait. Puis au final, tous les événements dans notre circuit, ça reste une communauté.
Oui, c'est ça.
On n'a pas de sponsor show, l'idée, ça n'a jamais été ça. C'est les meilleures places pour montrer autant les produits, mais de manière interactive. Puis pour vrai, la différence, puis que ce soit la FIC ou le Black Hat ou le RSA aux US, ces sponsor shows-là, le seul intérêt, c'est de ramasser le contact des vendeurs. Mais tu peux aller sur le site web puis cliquer Next, tu vas avoir le même résultat, là. Il y a très peu d'utilité là. Mais pour eux, au final, c'est des compagnies privées qui font de l'argent. Il n'y a aucun de nous qu'on est là pour faire de l'argent là-dessus, là. C'est ça la grosse différence. Ils ont quoi, 8 à 12 lobbies pour ramasser l'argent du gouvernement du Québec? C'est pas la même game.
Mais justement, cet effet-là, Pat, je vous ai les deux devant moi pour deux événements différents. Comment ça se fait que le gouvernement avez-vous sollicité le gouvernement, si oui, dans le passé, si deux, quelle a été la réponse pour ne pas injecter autant d'argent envers vos événements qui sont là depuis plusieurs années versus le nouveau qui débarque?
Ce qui est difficile, c'est que pour réussir à faire ça, c'est une job temps plein. Ce que eux, leur avantage, ah, c'est leur job, ils sont payés pour faire ça, c'est des lobbyistes.
Oui.
Et si tu donnes à quelqu'un 200 000 $ 300 000 pour faire ça à temps plein, c'est facile d'aller récupérer de l'argent. Mais à 2, 3 heures le soir, faire ça de temps en temps, c'est pas la même game du tout. Puis oui, il y a eu des essais de notre côté, puis c'est d'une complexité incroyable, là. Juste réussir à savoir qui parler, dire la bonne affaire de la bonne manière. Tu sais, faut que tu sois lobbyiste au final, là. Je dis pas que c'est impossible, mais tu as un chemin facile quand c'est ça ta job, puis tu as l'autre d'essayer de le défricher. Faut que tu sois au bon moment, à bonne place en plus, là. Et on s'entend tous que faut être l'ami de l'ami, généralement. Fait que c'est pas toujours facile d'aller dans ce chemin-là.
Ah, puis on le voit, puis là, je vais faire un autre parallèle avec le monde de la musique, si vous me pardonnez, mais on regarde les Franco et autres grands événements qui reçoivent d'énormes financements. Puis quand on regarde les plus petits festivals en région, puis même à Montréal, là, on avait le Poudre Fest dans la scène punk à Montréal, qui vont dire qu'eux ne reçoivent pas de financement, ou très, très peu, alors que finalement, on se rend compte que c'est les mêmes joueurs qui se partagent la tarte, là.
OK, merci de
Ouais.
confirmer. Parce que moi, le mot d'ordre
Yes.
que j'avais en le raisonnement, je devrais dire le feedback dans mon ancienne vie, là, ce que j'avais en haut, c'est que les demandes ne se rendaient pas. Donc, les donneurs d'ouvrage, les donneurs d'ordre ne donnaient pas d'argent vers la communauté parce qu'ils ne savaient même pas des fois que la communauté n'avait besoin. Je sais pas, ça, c'est le mot officiel, là, mais c'est peut-être quelque chose. Moi, je trouve qu'on a quelque chose à aller chercher là parce que c'est certain qu'ils
Oui,
veulent
tout à
encourager
fait.
qu'est-ce qu'on fait ici, là.
Mais j'adore l'approche que tu as dit, mais la réalité est inverse dans le sens qu'ils ne savent pas qu'on existe. C'est nous, il faut qu'ils aient tapé à la bonne porte au bon moment.
Ben,
Ils ne
ils savent
viennent
pas.
pas voir le monde.
Non, mais je le
Ces
sais,
gens-là
je
ne
suis le
vont
seul qui
pas
faisait ça,
voir le
là.
monde. C'est
Mais
ça.
non. Ça, c'est un fait. Puis, comme tu dis, tu sais, comme David, B-Side, je suis sûr, ils l'ont vraiment entendu parler, là, dans la bulle. Alors que parce que Patrick est à Québec, parce que Patrick, ils l'ont vu un couple de fois ici et là, OK, ils savent que ça existe, mais Nordsec, ils savent pas plus que ça existe, là.
Non, mais ils savent. On a eu des discussions justement pour que, tu sais, on a quand même un ministère de la cybersécurité justement pour qu'ils puissent participer. Mais après ça, il y a énormément justement de bureaucratie, de dire, bon, ben là, il faut que des gens viennent à Montréal, comment on va payer ça? Il y a plein de questions, disons, qui mettent un frein là-dessus. Puis, c'est.
Ben, j'arrête là, David, parce que moi, je les ai amenés, mes gars, à y aller. S'il y en a qui y ont été, ils se sont inscrits, ils ont participé, mais encore là, c'est parce qu'ils avaient déjà goûté à ces événements-là, ils le savaient. Mais quand je faisais un appel général à l'interne de tout le monde, c'est là que, de quoi tu parles? C'est ça, je te parle de publicité, là, tu sais, qui est pas connue, dans ce sens-là.
Ouais, je pense que ça prend du temps. Puis je pense que les succès, justement, Nordsec vient d'avoir sa plus grosse année
Oh,
à
nice.
vie. Donc, je pense que justement, en faisant des événements de plus en plus massifs, le CTF au Hackfest aussi, qui regroupe quand même des centaines de personnes, le but, je pense, c'est d'avoir des masses critiques. Le mot va se passer, mais ça se fera pas tout seul, c'est sûr et certain.
Non, exact. Puis pour finir sur un dernier sujet, vu que tu es en cybercrime, on voit beaucoup, beaucoup d'actions, surtout en Europe, là, avec tout ce qui se passe avec la guerre et autres. Là, tu as Revel dans les derniers jours qui ont dit qu'ils allaient attaquer le système bancaire et tout, mais que ça sera pas des déni de service. Là, aujourd'hui, on a vu que c'est des déni de service,
En
évidemment.
Europe, ouais.
Ouais, en Europe, sur les comme des associations bancaires, c'est même pas les banques directes. Est-ce que tu vois, est-ce que tu as vraiment des vues, des infos, des stats sur whatever ce qui se passe avec l'Europe présentement? Ça ressemble à quoi de ton côté?
Ben, en fait, tu sais, comme on dit en anglais, le talk is cheap, et on le voit depuis des années, en fait, tout ce qui est dans le monde de la cyberdélinquance, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais il y a beaucoup moins de choses qui se font. On l'a vu quand la Russie a envahi l'Ukraine. On annonçait en fait un déluge là, de piratage. On a vu certains actes isolés à droite et à gauche. Mais il me semble qu'on a eu beaucoup plus en fait de doxing puis de hacking qui est venu contre la Russie. Si vous vous rappelez, il y a un an, en fait, là, la quantité de données qui ont été exfiltrées de la Russie, les organismes fédéraux russes qui se faisaient pirater avec des dumps à droite et à gauche, pendant un certain moment, là, j'essayais de comprendre tout ce qui était fait, puis je veux dire, on perdait le fil, là, tous les jours, ça déballait, là, les dizaines de
Il y
gigs.
en avait, là.
Oui.
C'était quand même assez impressionnant. Puis justement, au cours des derniers mois, on a vu beaucoup de DDoS. Il reste que c'est quand même inquiétant. Simplement juste pour notre prestige, quand on voit que nos institutions peuvent pas résister une attaque DDoS pendant des jours, c'est quand même questionnant juste pour dire est-ce qu'on a une infrastructure qui est solide, oui ou non.
Exact. Moi, ça m'a surpris, par exemple. Puis pas juste pour le fait, on n'est pas capable de survivre au DOS. Il n'y avait aucune sécurité en place. Il n'était pas derrière aucune compagnie ou peu importe protection de trucs. Rien du tout. Exposé live sur le web. Puis là, c'est l'annonce de Reveal aujourd'hui avec les banques. C'est deux sites web d'assaut de banque qui sont exposés live encore. Ouais. Fait que c'est des sites faciles, mais ça reste que un port de Québec, puis de je me souviens plus lequel l'autre, c'est des infras ultra critiques, là. C'est pas petit comme impact, là.
Bien, surtout de plus en plus, on se fait demander de faire les transactions en ligne. Notre société migre, donc applique cette transformation numérique. C'est certain, comme tu dis, Pat, faut qu'il y ait une infrastructure solide et résiliente. Peu importe le contexte, peu importe la situation.
Et tout le monde va tomber à DDoS. Je pense que n'importe qui se fait attaquer va tomber pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures.
Oui, mais oui.
Quelque part, faut réagir rapidement. Et moi, ma crainte, c'est plus que justement, quand on essaie de gérer le DDoS, il y a peut-être une attaque qui passe en arrière de manière, disons, plus discrète ou plus... quand les gens de sécurité sont occupés à régler A, ils s'occupent oui. moins de B aussi. Donc moi, c'est plus ça mon inquiétude quand je vois toujours ces attaques de DDoS, c'est de se dire, est-ce qu'on met tout le monde en émoi pour essayer de trouver une solution à ce problème-là, puis pendant ce temps-là, ben on fait des port scans, qu'on essaie de voir... On rentre en se disant que peut-être qu'il y a personne qui regarde les logs ou les alertes aussi aussi assidûment qu'ils devraient finalement. Pour le moment, on n'a rien vu publiquement en fait de trop scandaleux, je dirais. Puis tu sais, à chaque fois, faut aussi voir en fait. On a eu il y a la luminerie il y a quelques mois qui s'est fait attaquer par un ransomware. Il va toujours avoir de manière aléatoire des cibles qui vont tomber au Canada. Mais quand j'ai regardé en fait sur à peu près toutes les cibles de ransomware, la liste des victimes, je défierais quiconque de trouver un ordre ou une direction. Je veux dire, on va avoir un concessionnaire automobile en Allemagne, on va avoir un hôpital aux États-Unis, après ça, on va avoir une église en Irlande. On voit que c'est beaucoup d'opportunisme, et même quand on parle de cibler des cibles, c'est pas si facile que ça, puis quelque part, c'est facile d'instrumentaliser après en disant « Ah ben, c'est ce qu'on visait », versus « Bon, on est tombé là-dessus, puis finalement, on est content ».
Ah oui, c'est clair qu'il y a beaucoup de scans qui deviennent des opportunités, là. Parce que le faire cibler, ça se fait, mais c'est beaucoup plus de social, d'envoyer des courriels et autres versus garrocher des exploits partout puis obtenir un shell. Puis là, tu dis, ah oui, eux ont de l'argent, on va le faire.
Puis on se dit toujours, ah, les hackers russes chinois vont rentrer chez nous, mais reste que, même si je vous disais, messieurs, là, allez me pirater une banque, par exemple, je vous dirais au Danemark. Quand même un pays important. Est-ce que vous connaissez un nom de banque au Danemark? Est-ce que vous parlez la langue? Même si vous rentrez dans le système, bonne chance pour essayer de vous retrouver dans leur réseau, de comprendre quoi et quoi. Donc, il faut voir que cette espèce de des attaques de hacking international comme ça, c'est plus difficile qu'on pense. C'est pour ça qu'on voit que on va souvent avoir des affiliés locaux. Donc, on avait notre fonctionnaire là, à Ottawa qui servait d'affilié à des gangs étrangers. Souvent, ça va passer en fait par des menaces locales qui vont s'affilier avec d'autres ou utiliser des outils internationaux. Mais je pense que les menaces directes de l'étranger existent tout à fait, mais sont pas évidentes parce qu'on connaît pas le milieu. Je ne saurais pas, moi, Desjardins ou Banque Royale, qu'est-ce qui est le plus important? Je veux dire, de l'extérieur. Première vue, c'est pas facile à dire, mais quand on habite ici, tout le monde sait laquelle des deux est la plus grosse banque.
Non, non, c'est clair. Puis même si tu vas en Suisse où ce que toutes les banques sont, c'est lesquelles t'es supposé d'attaquer, aucune idée. C'est ça. C'est un très bon point. La seule chose, pour avoir essayé des pentests internationaux, la seule chose qui me sauvait, c'est les URL. Généralement, ouais. Sont en anglais.
Ouais.
Ou en tout cas, sont lisibles, même si le mot veut rien dire. Tu es capable d'injecter dedans, mais tu sais pas en tout, tu t'en vas où. Là. Puis le résultat, t'es comme... aucune idée.
On a Google Translate au moins qui nous aide quand même.
Ouais, c'est ça. Mais là, il faut que tu rentres ça dans ton temps de test. Ouais, pour les criminels, ça ne change rien, mais ça reste. Ouais. C'est du temps. Ah, super cool. Ouais. Yeah, merci beaucoup, David. Très intéressant. Très content de t'avoir eu sur le podcast. Et,
ça fait plaisir.
Tu peux répéter les dates et tout pour le B5?
Oui, donc 16 septembre prochain, c'est un samedi, c'est une journée. Donc nous, on a appris que c'est bien d'organiser un événement, on peut se coucher le soir avec le sentiment du devoir accompli, savoir se relever le lendemain pour dire ça recommence. Mais donc on fait ça un samedi, ce qui fait que toutes les personnes qui voudraient participer n'ont pas besoin de demander un congé à leur boss, des fois à leur chum ou blonde pour dire qu'ils ne seront pas à la maison durant la journée. Mais donc, samedi 16 septembre à Montréal, à la Bibliothèque et Archives nationales, tous les détails sont sur bsidesmtn.ca et notre call for paper est ouvert. Il reste encore des billets à acheter avec des prix intéressants pour les étudiants aussi. Donc, on espère qu'on pourra être sold out pour une troisième année de suite.
Très cool. Soumettez vos talks. Tout le monde a quelque chose à dire. Gênez-vous pas.
Ben, merci pour l'invitation.
Yes. Merci Steve. Merci David.
Merci David.
Tout le monde.
Bye. Bye. Ciao. The French Connection.
French Connection.